Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et en 1829, écrites par Jean-François Champollion. Troisième partie de 3 de la 12e lettre. Continuation et conclusion de la description de Biban el-Mulouk. Le fondateur du palais de Louxor, ou plutôt des palais de Louxor, a été le pharaon Amenophis, même nom, Amenophte III, de la 18e dynastie. C'est ce prince qui a bâti la série d'édifices qui s'étend du sud au nord, depuis le Nil jusqu'aux 14 grandes colonnes de 45 pieds de hauteur et dont les masses appartiennent encore à ce règne. Sur toutes les architraves des autres colonnes ornant les cours et les salles intérieures, colonnes au nombre de 105, la plupart intactes, on lit en grand hiéroglyphe d'un relief très bas et d'un excellent travail des dédicaces faites au nom du roi Amenophis. Je mets ici la traduction de l'une d'elles pour donner une idée de toutes les autres, qui ne diffèrent que par quelques titres royaux de plus ou de moins. La vie, l'horus puissante et modérée, régnant par la justice, l'organisateur de son pays, celui qui tient le monde en repos, parce que, grand par sa force, il a frappé les barbares, le roi seigneur de justice, bien-aimé du soleil, le fils du soleil Amenophis, modérateur de la région pure, l'Égypte, a fait exécuter ses constructions consacrées à son père Amon, le dieu seigneur des trois zones de l'univers, dans l'Off du Midi. Il les a fait exécuter en pierre dure et bonne, afin d'ériger un édifice durable. C'est ce qu'a fait le fils du soleil Amenophis, chéri d'Amon-Ra. Ces inscriptions lèvent donc toute espèce de doute sur l'époque précise de la construction et de la décoration de cette partie de Louxor. Mes inscriptions ne sont pas sans verbe, comme les inscriptions grecques expliquées par M. Letronne, et qu'on a chicané si mal à propos. Je puis lui annoncer à ce sujet que je lui porterai les inscriptions dédicatoires égyptiennes des temples de Philae, d'Ombos et de Dendera, où le verbe « construire » ne manque jamais. Les bas-reliefs qui décorent le palais d'Amenophis sont, en général, relatifs à des actes religieux faits par ce prince aux grandes divinités de cette portion de Thèbes, qui était, premièrement, Amon-Ra, le dieu suprême de l'Égypte, et celui qu'on adorait presque exclusivement à Thèbes, sa ville éponyme. Deuxièmement, sa forme secondaire, Amon-Ra générateur, mystiquement surnommé le mari de sa mère, et représenté sous une forme priapique. C'est le dieu Pan, égyptien, mentionné dans les écrivains grecs. Troisièmement, la déesse Thamun, ou Thamon, c'est-à-dire Amon femelle, une des formes de Neit, considérée comme compagne d'Amon générateur. Quatrièmement, la déesse Mout, la grand-mère divine, compagne d'Amon-Ra. Cinquièmement et sixièmement, les jeunes dieux Khons et Harka, qui complètent les deux grandes triades adorées à Thèbes, savoir, dans la colonne des pères Amon-Ra, Amon générateur, dans la colonne des mères Mout, Thamun, et dans la colonne des fils Khons, Harka. Le pharaon est représenté faisant des offrandes, quelquefois très riches, à ses différentes divinités ou accompagnant leur bari, ou arche sacrée, portée processionnellement par des prêtres. Mais j'ai trouvé et fait dessiner dans deux des salles du palais une série de bas-reliefs plus intéressants encore et relatifs à la personne même du fondateur. Voici un mot sur les principaux. Le dieu Thoth, annonçant à la reine Tmaohenwa, femme du pharaon Thoutmôsis IV, qu'Amon, générateur, lui a accordé un fils. La même reine, dont l'état de grossesse est visiblement exprimé, conduite par Schnoufis et Hathor, Vénus, vers la chambre d'enfantement, le Mamissi. Cette même princesse placée sur un lit, mettant au monde le roi Aménophis. Des femmes soutiennent la gisante et des génies divins, rangés sous le lit, élèvent l'emblème de la vie vers le nouveau-né. La reine nourrissant le jeune prince. Le dieu Nil peint en bleu, le temps des basses eaux. Et le dieu Nil peint en rouge, le temps de l'inondation. Présentant le petit Aménophis, ainsi que le petit dieu Harka et autres enfants divins aux grandes divinités de Thèbes. Le royal enfant dans les bras d'Amon-Ra, qui le caresse. Le jeune roi institué par Amon-Ra. Les déesses protectrices de la Haute et de la Basse Égypte lui offrant les couronnes, emblème de la domination sur les deux pays. Et Thoth lui choisissant son grand nom, c'est-à-dire son prénom royal, Soleil, Seigneur de justice et de vérité, qui, sur les monuments, le distingue de tous les autres Aménophis. L'une des dernières salles du palais, d'un caractère plus religieux que toutes les autres, et qui a dû servir de chapelle royale ou de sanctuaire, n'est décorée que d'adorations aux deux triades de Thèbes par Aménophis. Et dans cette salle, dont le plafond existe encore, on trouve un second sanctuaire emboîté dans le premier, et dont voici la dédicace qui en donne très clairement l'époque, tout à fait récente en comparaison de celle du grand sanctuaire. Restauration de l'édifice faite par le roi, chéri de Fré, approuvé par Amon, le fils du soleil, seigneur des diadèmes, Alexandre, en l'honneur de son père, d'Amon-Ra, gardien des régions des Ophs, Thèbes. Il a fait construire le sanctuaire nouveau en pierre dure et bonne à la place de celui qui avait été fait sous la majesté du roi Soleil, seigneur de justice, le fils du Soleil Aménophis, modérateur de la région pure. Ainsi, ce second sanctuaire remonte seulement à l'origine de la domination des Grecs en Égypte, au règne d'Alexandre, fils d'Alexandre le Grand, et non ce dernier, ce que prouve d'ailleurs le visage enfantin du roi, représenté, à l'extérieur comme à l'intérieur de ce petit édifice, adorant les triades thébaines. Dans un de ces bas-reliefs, la déesse Tamoun est remplacée par la ville de Thèbes, personnifiée sous la forme d'une femme, avec cette légende. Voici ce que dit Thèbes, Thoth, la grande rectrice du monde. Nous avons mis en ta puissance toutes les contrées.
Les gnomes.
Nous t'avons donné Kémé, l'Égypte, terre nourricière. La déesse Thèbes adresse ses paroles au jeune roi Alexandre, auquel Amon, générateur, dit en même temps: nous accordons que les édifices que tu élèves soient aussi durables que le firmament. On ne trouve que cette seule partie moderne dans le vieux palais d'Aménophis, car il ne vaut la peine de citer le fait suivant que sous le rapport de la singularité. Dans une salle qui précède le sanctuaire, existe une pierre d'architrave qui, ayant été renouvelée sous un Ptolémée, et ornée d'une inscription, produit, en lisant les caractères qu'elle porte, une dédicace bizarre, en ce qu'on ne s'est point inquiété des vieilles pierres d'architrave voisines, conservant la dédicace primitive. La voici. Première pierre moderne. Restauration de l'édifice faite par le roi Ptolémée, toujours vivant, aimé de Ptah. Deuxième pierre antique. Monde, le soleil, seigneur de justice, le fils du soleil Aménophis, a fait exécuter ses constructions en l'honneur de son père Amon, etc. L'ancienne pierre, remplacée par le lagide, portait la légende « Laro Eris puissant », etc. « Seigneur du monde », etc. On ne s'est point inquiété si la nouvelle légende se liait ou non avec l'ancienne. C'est aux 14 grandes colonnes de Louxor que finissent les travaux du règne d'Aménophis, sous lequel ont cependant encore été décorées la deuxième et la septième des deux rangées, en allant du midi au nord. Les bas-reliefs appartiennent au règne du roi Horus, fils d'Aménophis, et les quatre dernières au règne suivant. Toute la partie nord des édifices de Louxor est d'une autre époque et formait un monument particulier, quoique lié par la grande colonnade à l'Aménophion, ou palais d'Aménophis. C'est à Ramsès le Grand, Sésostris, que l'on doit ces constructions. Et il a eu l'intention, non pas d'embellir le palais d'Aménophis, son ancêtre, mais de construire un édifice distinct, ce qui résulte évidemment de la dédicace suivante, sculptée en grand hiéroglyphe au-dessous de la corniche du pylône et répétée sur les architraves de toutes les colonnades que les cahutes modernes n'ont pas encore enseveli. La vie, Laro Eris, enfant d'Amon, le maître de la région supérieure et de la région inférieure, deux fois aimable, Lorus, plein de force, l'ami du monde, le roi, soleil gardien de vérité, approuvé par Fré, le fils préféré du roi des dieux, qui, assis sur le trône de son père, domine sur la terre, a fait exécuter ses constructions en l'honneur de son père, Amon-Ra, roi des dieux. Il a construit ce Ramesséion dans la ville d'Amon, dans l'Off du Midi. C'est ce qu'a fait le fils du soleil, le fils chéri d'Amon-Ramsès, vivificateur à toujours. C'est donc ici un monument particulier, distinct de l'Aménophion, et cela explique très bien pourquoi ces deux grands édifices ne sont pas sur le même alignement. Défaut choquant, remarqué par tous les voyageurs, qui supposaient à tort que toutes ces constructions étaient du même temps et formaient un seul tout, ce qui n'est pas. C'est devant le pylône nord du Ramesséion de Louxor que s'élèvent les deux célèbres obélisques de granit rose, d'un travail si pur et d'une si belle conservation. Ces deux masses énormes, véritables joyaux de plus de 70 pieds de hauteur, ont été érigés à cette place par Ramsès le Grand, qui a voulu en décorer son Ramesséion, comme cela est dit textuellement dans l'inscription hiéroglyphique de l'obélisque de gauche, face nord, colonne médiale, que voici. Le Seigneur du monde, soleil gardien de la vérité, ou justice, approuvé par Fré, a fait exécuter cet édifice en l'honneur de son père Amon-Ra, et il lui a érigé ses deux grands obélisques de pierre devant le Ramesséion de la ville d'Amon. Je possède des copies exactes de ces deux beaux monolithes. À cet endroit-ci, le lecteur bénévole voit une note de bas de page portant le numéro 1 qui dit ce qui suit. Un de ces deux obélisques a été apporté à Paris et dressé sur la place de la Concorde. Retour au texte de Jean-François Champollion. Je possède des copies exactes de ces deux beaux monolithes. Je les ai prises avec un soin extrême en corrigeant les erreurs des gravures déjà connues et en les complétant par les fouilles que nous avons faites jusqu'à la base des obélisques. Malheureusement, il est impossible d'avoir la fin de la face est de l'obélisque de droite et de la face ouest de l'obélisque de gauche. Il aurait fallu abattre pour cela quelques maisons de terre et faire déménager plusieurs pauvres familles de fellahs. Je n'entre pas dans de plus grands détails sur le contenu des légendes des deux obélisques. On sait déjà que, loin de renfermer, comme on l'a cru si longtemps, de grands mystères religieux, de hautes spéculations philosophiques, les secrets de la science occulte, ou tout au moins des leçons d'astronomie, ce sont tout simplement des dédicaces, plus ou moins fastueuses, des édifices devant lesquels s'élèvent les monuments de ce genre. Je passe donc à la description des pylônes, qui sont d'un bien autre intérêt. L'immense surface de chacun de ces deux massifs est couverte de sculptures d'un très bon style, sujets tous militaires et composés de plusieurs centaines de personnages. Massif de droite, le roi Ramsès, le Grand, assis sur son trône au milieu de son camp, reçoit les chefs militaires et des envoyés étrangers, détails du camp, bagages, tentes, fourgons, etc., etc. En dehors, l'armée égyptienne est rangée en bataille, chars de guerre à l'avant, à l'arrière et sur les flancs. Au centre, les fantassins régulièrement formés en carré. Massif de gauche, bataille sanglante, défaite des ennemis, leur poursuite, passage d'un fleuve, prise d'une ville. On amène ensuite les prisonniers. Voilà le sujet général de ces deux tableaux, d'environ 50 pieds chacun. Nous en avons des dessins fort exacts, ainsi que du peu d'inscriptions entremêlées aux scènes militaires. Les grands textes relatifs à cette campagne de Sésostris sont au-dessous des bas-reliefs. Malheureusement, il faudrait abattre une partie du village de Louxor pour en avoir des copies. Il a donc fallu me contenter d'apprendre par le haut des lignes encore visibles, que cette guerre avait eu lieu en l'an 5 du règne du conquérant et que la bataille s'était donnée le 5 du mois d'Épiphie. Ces dates me prouvent qu'il s'agit ici de la même guerre que celle dont on a sculpté les événements sur la paroi droite du grand monument d'Ipsambul, et qui porte aussi la date de l'an 5. La bataille figurée dans ce dernier temple est aussi du mois d'Épiphie, mais du 9 et non pas du 5. Il s'agit donc évidemment de deux affaires de la même campagne. Les peuples que les Égyptiens avaient à combattre sont des Asiatiques, qu'à leur costume on peut reconnaître pour des Bactriens, des Mèdes et des Babyloniens. Le pays de ces derniers est expressément nommé Naharaïnaka, le pays de Naharaïna, la Mésopotamie, dans les inscriptions d'Ipsambul, ainsi que les contrées de Chot, Robshi, Shabatun, Maru, Batchua, qu'il faut chercher nécessairement dans la géographie primitive de l'Asie occidentale. Les obélisques, les quatre colonnes, le pylône et le vaste péristyle ou cour environné de colonnes qui s'y rattachent
forme tout ce qui reste du Ramesséion de la rive droite, et on lit partout les dédicaces de Ramsès le Grand.
Deux seules pointes exceptées de ce grand édifice. Il paraît en effet que vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, l'ancienne décoration de la grande porte située entre ces deux massifs du pylône
était, par une cause quelconque,
en fort mauvais état, et qu'on en refit les masses entièrement à neuf. Les bas-reliefs de Ramsès le Grand furent alors remplacés par de nouveaux, qui existent encore et qui représentent le chef de la 24e dynastie, le conquérant éthiopien Sabaco ou Sabacon, qui, pendant de longues années, gouverna l'Égypte avec beaucoup de douceur, faisant les offrandes accoutumées aux dieux protecteurs du palais et de la ville de Thèbes. Ces bas-reliefs sur lesquels on voit le nom du roi qui est écrit Shabak et qu'on y lit très clairement, quoiqu'on ait pris soin de le marteler à une époque fort ancienne, ces bas-reliefs, dis-je, sont très curieux aussi sous le rapport du style. Les figures en sont fortes et très accusées, avec les muscles vigoureusement prononcés, sans qu'elles aient pour cela la lourdeur des sculptures du temps des Ptolémées et des Romains. Ce sont, au reste, les seules sculptures de ce règne que j'ai rencontrées en Égypte. Une seconde restauration, mais de peu d'importance, a eu également lieu au Ramesséion de Luxor. Trois pierres d'une architrave et le chapiteau de la première colonne gauche du péristyle ont été renouvelés sous Ptolémée Philopator, et l'on n'a pas manqué de sculpter sur l'architrave l'inscription suivante. Restauration de l'édifice faite par le roi Ptolémée, toujours vivant, chéri d'Isis et de Phtah, et par la dominatrice du monde, Arsinoé, dieu Philopator, aimé par Amon-Ra, roi des dieux. Je ne mets point au nombre des restaurations quelques sculptures de Ramsès Meïamoun que l'on remarque en dehors du Ramesséion, du côté de l'est, parce qu'elles peuvent avoir appartenu à un édifice contigu et sans liaison réelle avec le monument de Sésostris. Je termine ici, pour cette fois, mes notices monumentales. Je parlerai, dans ma prochaine lettre,
des tombeaux des rois thébains
que nous exploitons dans ce moment. Adieu. Postscriptum, 2 avril. Je ferme aujourd'hui ma lettre, le courrier devant partir ce matin même pour le Caire. Rien de nouveau depuis le 25. Toujours bonne santé et bon courage. Je donne ce soir à nos compagnons une fête dans une des plus jolies salles du tombeau d'Ouzirei. Nous y oublierons la stérilité et le voisinage de la seconde cataracte où nous avions à peine du pain à manger. La chair ne répondra pas à la magnificence du local, mais on fera l'impossible pour n'être pas trop au-dessous. Je voulais offrir à notre jeunesse un plat nouveau pour nous et qui devait ajouter au plaisir de la réunion. C'était un morceau de jeune crocodile mis à la sauce piquante, le hasard ayant voulu qu'on m'en apportât un tué d'hier matin. Mais j'ai joué de malheur. La pièce de crocodile s'est gâtée. Nous n'y perdrons vraisemblablement qu'une bonne indigestion chacun. Fin de la troisième partie, de 3, de la 12e lettre, ainsi que du 11e fichier, des lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829,
par Jean-François Champollion.